Bonjour à tous et merci d'écouter Radio Okapi en cette journée spéciale consacrée à l'enfant africain. Tout est parti de ce qu'on appelle les émeutes de Soweto, cette manifestation d'adolescents noirs en Afrique du Sud le 16 juin 1976, protestant contre l'imposition de l'enseignement exclusif en langue africaine et qui dégénéra lorsque la police ouvrit le feu. Ces émeutes ont lieu alors que le pays vit sous le régime de l'apartheid. Le bilan est officiellement de 23 morts et 220 blessés, mais le bilan réel n'est pas vraiment connu. On parle de plusieurs centaines de morts et on avance parfois à 575 morts, dont 570 noirs. Nombre d'entre elles furent touchés des balles dans le dos. Depuis 1991, la journée de l'enfant africain est organisée chaque année le 16 juin sur tout le continent africain en souvenir du massacre de ses enfants. Cette année, la journée se célèbre sous le thème « Tous ensemble pour des actions urgentes en faveur des enfants de la rue ». Selon les réseaux des éducateurs et encadreurs des enfants de la rue RGR, une ONG qui travaille dans ce secteur, le phénomène enfants de la rue prend des allures inquiétantes à travers le pays. Cette plateforme fait état des près de 20 000 enfants qui vivent dans les rues de Kinshasa à ces jours, alors que leur nombre avoisinait 13 800 en 2006. À cela s'ajoute la situation des bébés qui naissent des autres enfants de la rue et qui avoisineraient une soixantaine chaque mois selon RGR. Cette situation a plusieurs causes et partant du thème retenu cette année, vous, auditeurs des radios catholiques, proposez-vous pour lutter efficacement contre le phénomène enfants de la rue. Nous recevons dans ce studio Mme Thérèse Bouti, représentante de l'UNICEF en RDC. Marie-Chantal Lumba, Tissim Poutou et Sylvain Matundou sont à la réalisation de cette émission supervisée par Nicole Ngaka et Pierrot et la Mégie vous la présente. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs. Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Comme je le disais à l'introduction, la Journée internationale de l'enfant africain se célèbre en ce moment dans plusieurs villes à travers l'Afrique et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Avec vous, nous nous penchons sur la situation des enfants vivant dans la rue. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter efficacement contre ce phénomène? Quelles sont les actions à mener? Appelez-nous au 081 890 6315 un message électronique à l'adresse pa@radiookapi.net. Madame Pierrette Ovouti, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Parole aux auditeurs qui s'épanche aujourd'hui sur la situation de l'enfant africain. Avant d'aller plus loin, j'essaie dans quelques lignes essayer de parler de la journée du 16, comment et là, on est parvenu à cette journée. Si vous pouvez permettre aux auditeurs de comprendre un peu d'une manière un peu plus élargie les circonstances qui ont fait à ce qu'on puisse retenir cette journée comme la journée de l'enfant africain.
Oui, alors la journée de l'enfant africain est une manifestation des gens qui se passe tous les ans et qui est à l'origine organisée par les pays africains et l'Union africaine. Et chaque année, il y a un thème qui est retenu en fonction des préoccupations, des situations ou de ce qu'on veut promouvoir. Et cette année, le thème qui a été retenu, c'est donc les enfants de la rue et les actions urgentes qu'il faut prendre pour ce fléau social, si on peut l'appeler ainsi, puisque il s'agit d'un phénomène grandissant.
Et comment, à quel moment le phénomène est devenu grandissant? Est-ce que c'est une situation récente, c'est une situation qui perdure en Afrique, ou bien il y a un moment où le phénomène est devenu vraiment préoccupant?
Bon, je pense que c'est une combinaison de facteurs. Par exemple, ici en RDC, bon, il y a eu d'une part des conflits armés, D'autre part, la pauvreté et des problèmes sociaux grandissants, une certaine déstructuration sociale qui ont fait que ce problème, bien sûr, qui existe depuis longtemps, mais est en nette phase d'augmentation, bien que les chiffres sont des estimations qu'il faut prendre avec une certaine prudence.
Et si on peut avoir une idée, à travers le pays, il y a une ONG qui a parlé à Kinshasa, qui estime qu'on peut aller jusqu'à 20 000. Je viens de voir tout à l'heure, là, au Kassai-Occidental, l'UNICEF parle de près de 7 000 à travers la province du Kassai-Occidental. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée globale à travers le pays, le nombre d'enfants qui se retrouvent?
Bon, alors d'abord, sur Kinshasa, le REGER a mené une étude en 2006 qui avait donné une estimation de 13 000 enfants des rues. Mais, comme vous le dites bien, on est sûr, malheureusement, que ce chiffre a augmenté. Bon, ça peut être jusqu'à 20 000, effectivement, mais franchement, on ne connaît pas le chiffre exact maintenant. Et, il y a eu une estimation, alors, pour l'ensemble du pays, bon, c'est un phénomène essentiellement urbain, qui est d'environ 30 000 pour le pays.
On vous garde dans ce studio, il y a les auditeurs qui sont en ligne. Je m'en vais déjà dire à Séraphin, d'Ouvira, Trifon, de Kinshasa, Koukaba de Mbandaka, que nous dégageons dans cette émission les pistes et les solutions pour parvenir à intervenir. Vous avez suivi le terme, c'est les actions urgentes. Vous, dans votre milieu, là où vous êtes, qu'est-ce que vous pensez qui puisse être fait pour lutter efficacement contre ce phénomène?
Parole aux auditeurs.
C'est Rassan, vous êtes à Ouvira, c'est dans le sud qui vous bonjour.
Bonjour Pierrot.
Vous avez suivi la problématique, les causes ont été évoquées. Peut-être à Ouvira, vous avez d'autres causes qui font que les enfants se retrouvent dans la rue. Partant de ces causes, qu'est-ce que vous pensez qui puisse être fait? Quelles sont les actions qu'il faudrait mener pour assister ces enfants et surtout lutter contre ce phénomène?
Oui, merci de l'opportunité que m'a accordé encore une fois de plus. Mais je voudrais d'abord souligner quelque chose auquel votre invité vient de parler tout à l'heure. Parce qu'il a parlé de la cause de nos actions militaires, donc de guerre que nous avons connues normalement dans notre pays. Mais je ne sais pas ou je ne pense pas si cela est la vraie ou la réalité cause. Parce que nous ne pouvons pas escamoter la réalité qui est en face de nous. Donc la vraie cause, personnellement, je suis, c'est d'abord la situation socio-économique de la population. Parce que si on prend même la situation de guerre que nous avions connue, même si l'enfant a perdu tous ses parents, il est orphelin, mais il ne manque pas les oncles qui peuvent lui venir en aide, les tantes qui peuvent le récupérer. Donc l'action là, ou la cause guerre, moi j'exclus cette cause là. Moi je voudrais beaucoup plus m'atteler sur la cause de la situation socio-économique de la population. Et là, j'aimerais d'ailleurs indiquer le gouvernement congolais, parce que nous, l'Union, aujourd'hui, la responsabilité est comme au gouvernement congolais, d'assurer une bonne rémunération qui permettra aux travailleurs, ainsi qu'à leur famille, une existence à la dignité humaine, mais aussi à leur habitation de l'alphabétisation dans notre pays. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour notre gouvernement. Donc, c'est pourquoi j'aimerais peut-être terminer mon allocution en faisant un petit appel au peuple congolais. Donc, nous avons vu tous, témoins, pendant cette législature, que nos gouvernants ont montré leur insuffisance, non seulement sur le plan de l'air intrinsèque, mais sur le plan de la bonne gouvernance. Donc nous avons ce devoir-là de sanctionner sérieusement ceux du Rouja qui ont montré l'insuffisance sur tout le plan, M. Pierrot.
Et oui, avant de vous libérer, peut-être un peu rapidement, mais vous avez chargé le gouvernement, Mme Pierrette Vouti a parlé de conflits armés comme l'une des causes, pas la cause principale, mais l'une des causes, entre autres. Vous avez aussi évoqué la situation socio-économique. Mais quelle est la part de responsabilité des parents dans cette situation? Est-ce que tous les enfants qui sont dans la rue, ils sont parce que leurs parents n'ont pas de moyens? Et quelle est la responsabilité des parents, Séraphin?
Non, c'est vrai que nos parents ont ce rôle-là d'éduquer leurs enfants. Vraiment, c'est un rôle capital pour le parent. Mais imaginez-vous, M. Perrault, vous devez savoir quelque chose, parce que tout marche de pair. On ne peut pas éduquer un enfant alors qu'on n'a pas de moyens. Imaginez-vous un enfant qui va passer 2 jours en tocrée sans manger, comment est-ce qu'il sera en train de mettre en pratique votre conseil? Donc, il doit d'abord chercher comment, aller chercher quoi mettre sous la dent. Donc, pour moi, le gouvernement devait d'abord améliorer la société économique des travailleurs congolais, et même des chômeurs aujourd'hui, parce que si vous voyez le taux des chômeurs aujourd'hui dans notre pays est élevé. Le gouvernement devrait d'abord bureau, ça, parce qu'on ne peut pas éduquer un enfant sans avoir un parent qui est là, c'est le monsieur. Merci de faire.
Merci, Séraphin. Vous pensez que l'amélioration des conditions de vie des parents est aussi l'une de voies pour éradiquer le phénomène. Nous rentrons ici à Kinshasa avec Truffon. Vous êtes en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur
Bureau. Est-ce que vous inscrivez dans cette logique de Séraphin qui pense que la responsabilité d'abord sur le gouvernement et l'amélioration des conditions de vie des parents peut régler le problème?
Oui, je vais évoluer dans sa logique. Je pense qu'à mon niveau, je vais ajouter plutôt un autre responsable à cette affaire. Mm-hmm. C'est que d'abord, l'État doit garantir la sécurité sur tous les plans de tout individu. À part l'État, il y a la famille qui est la cellule de base. Je prends la troisième responsable qui est en fait les églises, la naissance, la prolifération des églises de réveil aujourd'hui, qui sont en train de propulser les enfants dans la rue. Mais pourquoi j'insiste sur l'État, je vois, je passe cet avis là nous, parce que j'étais à Lubumbashi, j'ai vu M. Moïse Katumbi, le gouverneur de là, assez comme une société, le maire de la ville, ils ont fait comme une sorte de traque contre ces enfants-là. On les a pris tous, on les a menés vers Kachapa, où il y avait un centre construit spécialement pour ces enfants. Mais après, on peut voir autre chose après. Mais tu dois d'abord gérer, contrôler. Parce que non seulement ils sont en danger, mais ils constituent aussi un danger pour les autres. Deuxième solution, les jeunes à mener, c'est toujours l'État qui doit le faire. Je vais vous rappeler que, je vais aller par cette réflexion. Il est rare de demander à l'enfant dans la rue, qu'il soit originaire, par exemple, d'une commune comme la Gombe. C'est-à-dire tous les enfants de la rue, la plupart viennent des quartiers périphériques, où il y a la souffrance aux extrêmes. Jamais ici, à une personne, vous verrez un enfant dans la rue qui vient de Gombe, du Meto, qui fait un cadavre. Parce que là, la vie va en venir. Les quartiers résidentiels. Mais la plupart, c'est dans les quartiers où les gens souffrent terriblement. Et dans ça, il y a l'aspect église des réveils qui s'ajoute. Aujourd'hui, ces églises des réveils propulsent ou amènent trop d'enfants à aller dans la rue. On voit le sorcier derrière tout enfant qui est mal nourri, pendant que l'enfant n'a pas bien mangé et son physique devient faible. Le malheur de toute la famille est attribué à cet enfant. L'État doit être dur, très dur. Alors, il pourrait avec ses
Merci,
c'est ça. Parce que ça ne colle pas.
Merci.
Et je pense que c'est ça. Et la famille est la solution extrême. Merci beaucoup.
Merci, Trifon de Kinshasa. Vous avez ajouté la dimension conception de l'église avec le phénomène enfant dit sorcier. On prend en compte cela. Koukaba, vous êtes en Bandakia dans la province de l'Équateur. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour aussi Radio Capi et ses auditeurs.
Vous êtes en Bandakia, les actions concrètes en Bandakia, quand vous regardez la situation des enfants de la rue, qu'est-ce qui se fait dans la ville, qu'est-ce que vous pensez qui puisse être fait sur place en Bandakia pour lutter contre ce phénomène et venir en aide à ces enfants?
Oui, merci pour la question. Avant de répondre, moi je dirais ce qui est pour tout le monde, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, dit-on. Donc, qui entre femmes et hommes qui sont là, à la base de la situation des enfants que nous déplorons aujourd'hui? Ça, c'est la question que je pose à notre invité. Bon, en Bandaka, moi, j'ai vécu ici longtemps. Ici, en Bandaka, si une fille ne met pas au monde avant le mariage, c'est une femme, c'est une fille qui est déconsidérée. Ça, il faut prendre ça en considération. Bon, comme aussi mes prédécesseurs ont dit, il y a l'État qui ne s'occupe pas tellement de la population par manque de travail, donc on ne sait pas nourrir ses enfants. Voilà. Par exemple, quand je parle de Mandaka, bon, une fille qui met au monde qui n'a pas de travail, il prend la fille, il prend les enfants, il donne à ses grands-mères ou bien à sa mère, et elle sera par exemple à Kinshasa pour aller chercher quelque chose pour envoyer à ses enfants-là. Voilà ce que ça cause. Bon, moi, et ensuite, je condamne aussi les femmes. Surtout, les femmes aiment la facilité. Ils n'aiment pas travailler le sol. Tandis que la première loi de Dieu, c'est toucher le sol, cultiver pour avoir à manger. Parce que l'homme mange tout le jour. Si les femmes se prostituent, c'est parce qu'il manque à manger. Non seulement parce qu'il manque à se vêtir, mais d'abord le manger. Alors, la troisième point, je condamne les musiciens. Les musiciens chantent tout et rien pour inciter le jeune de faire ce que nous voyons pour le moment. Donc ils chantent tout et rien, en tout cas pour envoyer les enfants au sexe. Yakatovanda, c'est le phénomène que nous venons de connaître aujourd'hui. Yakatovanda, donc le mariage n'est pas béni par le parent. Donc, Yakatovanda, ils s'en vont, ils mettent les enfants, tout ce qui peut leur arriver, c'est la situation qui en forme.
Voilà, merci beaucoup.
Et l'internet aussi, aussi avec le porno, avec les maisons qui projettent des films. Les films là, pour les enfants, quand nous avons grandi, il y avait des films qui étaient destinés pour les adultes et il y avait des films qui étaient destinés pour les enfants.
Pour
les enfants, tout le monde est devenu adulte.
Voilà.
Enfants, voilà ce que je
voilà.
En fait, ma contribution.
Voilà, pour vous résumer, c'est que il y a la sexualité précoce, la sexualité au mariage est un phénomène qui favorise la présence des enfants dans la rue. Nous avons Pauline Bissiro et Jean Dikian de Lubumbashi qui vont intervenir après. Nous allons revenir dans ce studio pour donner la parole à notre invité. Pauline, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, Pauline, les causes sont presque identiques. On peut revenir ce qui se passe à Isiro, ça peut être la même chose à Kananga, à Kinshasa. Mais si on peut aller concrètement au but des solutions, aux actions qu'il faut mener pour lutter contre ces phénomènes et assister ces enfants, qu'est-ce que vous proposez au-delà de toutes les raisons qui ont été évoquées parce qu'elles risquent d'être les mêmes presque dans toutes les villes?
Ok, merci. La responsabilité partagée avec le travail et tout le gouvernement congolais. Et les parents ne veulent même pas prendre la responsabilité de leurs enfants, comme il faut. Un parent qui a aimé son enfant, il ne peut pas déambuler tranquillement. Je demande aux autorités de notre pays et notre gouvernement congolais.
On a perdu Paulin, sa ligne n'a pas permis qu'on puisse évoluer. Je crois que Jean Dikian est en ligne. On l'a aussi perdu. Cela nous permet de pouvoir donner la parole à Mme Thérèse Vouti pour commenter ces premiers groupes d'auditeurs.
Alors, merci pour ces commentaires et cette discussion qui est en fait tout à fait pertinente. C'est bien, j'ai bien dit dans mon introduction que il y a une combinaison de facteurs qui est la cause de cette situation. Donc, c'est pas uniquement les conseillers armés, c'est pas uniquement les parents, c'est pas uniquement les enfants, mais c'est tout le gouvernement, les familles. C'est un problème de société, c'est-à-dire que c'est un problème profond et qui ne peut pas être réglé simplement avec des moyens ponctuels. Quoi. Il faut que tout le monde rassemble ses forces pour régler ce genre de problème. Alors les difficultés qu'on rencontre, c'est la question de comment faire, la question de prévention, comment faire pour que les enfants ne se retrouvent pas
dans la rue. C'est ça même.
Alors, il y a une question. Bon, d'abord, il y a le gouvernement qui a mis en place qui a passé une loi sur la protection des enfants. Il y a un autre instrument juridique qui est un plan d'action qui a été préparé. Mais c'est clair que ces actions en amont ne sont pas suffisantes. Elles sont très importantes, mais elles ne sont pas suffisantes. Donc après, en aval, il y a le travail qui est fait par certains partenaires sur le terrain, dont des partenaires des réseaux nationaux, comme par exemple le RESER, et d'autres partenaires comme des différents types d'ONG. Bon, si on prend les actions qui sont menées actuellement, par exemple, pendant le premier semestre 2011, dans la seule ville de Kinshasa, il y a 8310 enfants, parmi lesquels 1696 filles qui ont été identifiées et suivies, et 1400 qui ont été réintégrées dans leur famille. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi des centres d'hébergement qui sont en place, mais qui ne sont pas des centres où on enferme les enfants, comme l'auditeur de Lubumbashi, je crois, l'a mentionné. Parce que nous sommes complètement opposés à ce genre de démarche. Et donc, ce qui est important de noter, c'est que le plus difficile, c'est la réintégration des enfants dans leur milieu familial. Mmh. Et pourtant, ça, c'est le plus durable. C'est-à-dire qu'on peut aider les enfants qui malheureusement sont déjà dans la rue avec des services de scolarisation, de santé, s'assurer qu'ils ont un endroit pour aller prendre une douche ou pour dormir quand ils sont fatigués. Mais le problème de fond et la solution durable à ce type de problème, c'est que les enfants puissent être intégrés dans leur famille et dans leur communauté. Et c'est là que se pose la difficulté. Parce que, comme un auditeur l'a dit, et il a tout à fait raison, le problème, c'est que un enfant est poussé dans la rue, c'est en général pour une question de rupture familiale. Soit que l'un des parents a un divorce ou la pauvreté, ou trop d'enfants, ou mariage précoce, etc. Et c'est comme ça que on pousse les enfants et qu'on les accuse de tout, y compris d'être des sorciers, de prendre de la drogue, de voler. Bon, c'est vrai que les enfants font comme ils peuvent pour survivre. Et donc c'est un domaine où tout le monde a des responsabilités, pas seulement le gouvernement, pas seulement les parents, pas seulement l'UNICEF. C'est tout le monde ensemble et on ne peut apporter des solutions de fond que si on travaille tous ensemble sur ces questions.
Mais comment rendre les actions efficaces, par exemple, que ce soit l'hébergement, que ce soit l'encadrement, même les efforts pour la réintégration familiale, comment cela peut être efficace si on n'attaque pas en amont? Parce que je me dis, les interventions au niveau des causes qui font, par exemple, que les enfants se retrouvent dans la rue, on a évoqué les problèmes, les enfants sorciers, la pauvreté, tout cela, mais au niveau de l'UNICEF, comment pensez-vous mener des actions en amont pour faire à ce qui se fait en aval puisse être efficace? Parce que si on n'arrête pas en amont, on risque aujourd'hui, on a 6 000, 7 000, on réintègre, on les encadre, demain on a 12 000 qui se déversent, et on risque de faire un cycle comme ça.
Vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça que je disais que c'est une responsabilité collective. Parce que c'est vrai que le gouvernement a sa part de responsabilité, qu'il y a les cadres qui sont il y a un cadre législatif qui existe maintenant, qui est la loi portant sur la protection des enfants. Il y a un plan d'action pour les enfants dans les rues. Nous travaillons très étroitement avec le ministère des Affaires sociales et le ministère de la Justice pour mettre en place des tribunaux spéciaux pour les enfants. Donc il y a toute une série de mesures, disons, qui sont prises au niveau en amont. Mais après, il faut bien sûr les mettre en œuvre, ces mesures. Et c'est là que ça devient le plus compliqué. Parce que il faut qu'on travaille tous ensemble. On peut pas travailler en isolement. Vous ne pouvez pas compter sur l'UNICEF pour régler les problèmes des enfants des rues qui, comme je l'ai dit, c'est un problème de société. On peut faire tout ce qu'on veut à l'UNICEF, on n'arrivera pas à régler ce problème seul si on n'a pas en amont l'appui du gouvernement et la sensibilité des parents, les familles ne sont pas sensibilisées correctement à ce problème.
Nous avons Pierrette qui nous appelle de Kananga au Kasai Occidental. Joseph est à Bukavu. Vous allez avoir la parole tout juste après.
Émission spéciale parole aux auditeurs consacrée à la province du Nord Kivu.
Quel bilan faites-vous à ces jours du fonctionnement de vos institutions provinciales?
Les auditeurs habitant la province du Nord Kivu, prenez rendez-vous avec toute l'équipe PA ce mercredi 22 juin de 10h à 11h15. Inscrivez-vous à l'adresse pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Tous ceux qui sont à Goma, Kirumba, Walikale, à Rutshuru, partout là-bas dans le Nord Kivu, prenez rendez-vous le mercredi prochain. Ça sera l'émission spéciale Parole aux auditeurs consacrée à la gestion de la province du Nord Kivu. Et nous revenons hein, ce jeudi 16 juin pour parler des lancements africains avec un thème très important, les actions urgentes qu'il faudrait mener pour parvenir à régler ces problèmes ou aussi surtout à assister ces enfants. Nous en parlons avec Madame Pierrette Vouti, représentante de l'UNICEF en RDC. Vous êtes très nombreux à vouloir réagir. Vous avez déjà suivi notre numéro 081-890-6315. Nous allons à Kananga au Castel-Stinsal. Pierrette, vous êtes en ligne, bonjour. Pierrette, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, Radio Papi.
On vous écoute, Pierrette. Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ces problèmes des enfants qui se retrouvent dans la rue, leur prise en charge, et surtout aussi lutter contre les phénomènes à Kananga?
Bon, moi, je pense qu'on devait lutter contre la pauvreté. Comme l'a dit quelqu'un qui m'a précédé, on retrouve rarement des enfants issus des familles nantis dans la rue. La plupart des enfants qui se retrouvent dans la rue, ce sont des enfants des familles pauvres. On devrait aussi lutter contre la séparation des parents. Parce que je pense que les divorces est l'une des grandes causes qui fait à ce que les enfants puissent se retrouver dans la rue. Il y a aussi la part et la responsabilité des églises. Les églises devaient lutter contre ces phénomènes enfants sorciers. Parce que plus d'une fois, les enfants ont été envoyés dans la rue parce qu'un prophète a certifié que l'enfant était sorcier. Si on veut savoir qu'il est sorcier, pourquoi ne pas prier pour lui? On déclare un enfant sorcier et on laisse les tuteurs l'envoyer dans la rue sans rien faire. Les églises devaient aussi, à l'instar de l'église catholique, créer des orphelinats pour essayer de venir en aide à ces enfants. Il y a aussi notre grande part, la part de l'État.
Vous êtes en ligne, Pierrette? Ah, désolé qu'on a perdu Pierrette au moment où elle évoquait la responsabilité de l'État, mais là, elle a fait voir qu'il faut agir en amont, lutter contre la séparation, la rupture familiale et aussi contre le phénomène enfant dit sorcier. Nous avons Lubumbashi Jean Dijan, vous êtes en ligne maintenant, bonjour.
Bonjour Radio Capi, je suis en ligne, tel que vous m'entendez.
Voilà. Au Katanga, on a eu un exemple, hein, c'est l'exemple qui a été donné par Tufan par rapport à ce qui a été fait pour les enfants de la rue. Cela a été, était-il efficace? Qu'est-ce qu'il y a eu de résultats sur le terrain à Lubumbashi? Et qu'est-ce que vous pensez encore au-delà de ce qui a été fait, qui puisse être fait efficacement pour venir en aide à ces enfants et lutter contre ce phénomène?
Oui, merci beaucoup. D'abord, l'information que je voulais apporter au débat, d'après les plans d'OPAN, le plan d'action national sur les orphelins et enfants vulnérables, programme 2010-2014, démontre que plus de 8 millions d'enfants sont rendus vulnérables en 2007, car, bien sûr, l'État congolais, les enfants, les communautés, voilà. Donc, et ces enfants-là, plus de 8 millions qui sont vulnérables dans nos communautés, sont dans la rue. Ça, c'est l'information que je voulais apporter et je vais atterrir. Donc, plus de 8 millions d'enfants qui sont candidats parce qu'ils sont vulnérables dans nos communautés. Les thèmes tombent très bien qui parlent des actions urgentes. Et là où ça me pousse comme acteur de protection de l'enfant, parce que dans ce domaine, nous travaillons ici dans la zone 6, notamment dans les Castagnes et dans les Castagnes, bien sûr avec la fille de l'UNICEF, nous pensons qu'il est temps de revisiter les actions de protection des droits de l'enfant. Ça ne sert à rien d'aller prendre un enfant, retourner dans la famille, et puis demain il y a 5, il y a 10. Donc ce qui est intéressant et important, d'abord nous les acteurs de protection des droits de l'enfant, devons revisiter nos actions. Ça c'est très important. Parce qu'on peut, rester dans 10 000 ou 13 000 qui sont dans la rue, mais il y a plus de 8 millions qui sont candidats, parce qu'ils sont vulnérables. Là nous disons que c'est pour notre programme communautaire de promotion des droits de l'enfant, les actions dans la communauté sont vraiment importantes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous pensons que, d'après notre programme, ce qui est intéressant, il faut renforcer un environnement protecteur de l'enfant et le système de protection de l'enfant. Quand nous parlons d'un environnement protecteur de l'enfant, on fait allusion à la lutte contre diverses violations de l'enfant que les enfants subissent dans nos communautés. On peut évoquer les problèmes de la pauvreté, on peut évoquer les problèmes de guerre, mais s'il n'y a pas un bon environnement protecteur de l'enfant, comme on l'a toujours dit, le même fait produit les mêmes causes. Moi, je pense qu'il est temps à tous les acteurs de protection de l'enfant, nationaux ou internationaux de réfléchir, de réfléchir les actions. Ça, c'est très important. Pour ce qui nous concerne dans la zone ici, pour ce qui concerne la promotion des enfants à des sources humaines. Avec la Cour UNICEF, on a essayé de conscientiser, de parler avec les pasteurs. Là, on tient des gens aux causes. Aujourd'hui, il y a quelques pasteurs qui sont devenus sensibilisateurs, volontaires, comme assistants sociaux, hier. Ils activent les enfants de sorcellerie. Aujourd'hui, ils continuent à protéger. Donc, pour le résumer, la grande recommandation que nous faisons, c'est de revoir les actions que les acteurs de protection de l'enfant sont en train de faire. Pour ce qui nous concerne, pour aller d'une manière efficace et durable, il faut renforcer l'environnement protecteur de l'enfant.
Bien
sûr, aussi renforcer le système de protection de l'enfant dans nos communautés. Moi,
voilà, merci Jean Duquin. On a un problème hein, pour les uns et les autres, des fois, on ne parvenait pas à conclure à cause de la dépuration de la ligne téléphonique, comme Pierrette, mais je crois maintenant qu'elle est là, le temps de conclure. Pierrette, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Vous avez suivi aussi Jean Duquin de Lubumbashi, enfin qui est un acteur sur le terrain, il a donné des pistes et des solutions, mais ça vous permet aussi de conclure, hein. Vous étiez en train de parler de l'État, pour terminer votre propos.
Oui, je parlais de la responsabilité de l'État qui est prépondérante. L'État devait lutter pour récupérer les enfants qui sont déjà dans la rue en vue d'une réintégration dans la société. Et l'État devait aussi, à mon avis, sanctionner toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à ce que les enfants se retrouvent dans la rue.
Merci beaucoup, Pierrette. Nous allons terminer avec Joseph de Bukavu. Suivez-vous, Joseph, bonjour. Joseph, vous êtes en ligne, bonjour. Et voilà, le temps que la réalisation puisse recontacter Joseph, ça va nous permettre de revenir dans ce studio. On va lire ce message de Eric qui est à Goma au Nord Kivu. Il est chargé des relations publiques et droits de l'homme au sein de l'association DRASEDEC, décentralisation des recherches, actions socio-économiques pour le développement communautaire. Il dit ceci. Je pense que le seul moyen pour mettre ça en phénomène enfant de la rue, c'est de récupérer ces enfants et ouvrir pour eux une école de métier à fréquenter gratuitement. Tout cela parce que selon les dires de presque tous les enfants vivant dans la rue ici à Goma, ils ne sont pas sacrifiés de la vie dans la rue. Ils sont souvent victimes des tracasseries de la police et des gangs des bandits. Ils vivent malgré eux. Ariel, qui est à Sac et au Nord, qui vous dit ceci. Je pense qu'il faut résoudre un problème en s'attaquant à la source. La source du phénomène enfant de la rue, selon moi, c'est la pauvreté des parents causée par le chômage. D'où le gouvernement est directement responsable. Trois solutions peuvent être envisagées. La création d'emplois pour le parent, la limitation des naissances, la gratuité totale de l'enseignement primaire. Et Manix, gardez la ligne, hein. On va revenir à vous. Non, Manix, c'est déjà en ligne. Manix, bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur.
Oui, on vous écoute, Manix.
Ici en Bujumbashi, et dernièrement, dans les années passées ici, il y avait des règles qui étaient très exagérées pour les vols, ils commettaient beaucoup de crimes. Et à ce moment-là, on les a brûlés pour comme vengeance. Alors, je ne sais pas si... Bon, quand même, ils se sont quand même éduqués.
Voilà, merci Manix, je vais donner l'exemple de ce qui s'est passé et dans un passé, voilà, dans ce passé récent en Bujumbashi où la population s'attaquait aux enfants de la rue, les brûlait, hein, les accusait bien sûr de voleurs, ce qui a fait que des fois d'autres ont pu fuir et quitter la rue pour se réfugier dans d'autres villes dans les environs de Bujumbashi.
Parole aux auditeurs.
Et Madame Pierrette Bouty, on a suivi les auditeurs, il se dégage quand même un point important, comme l'a dit Jean Duquin de Lubumbashi qui travaille sur le terrain, qui a parlé de la révisitation des actions à mener. Il pense qu'il faut renforcer l'environnement de protection de l'enfant. En fait, dans les milieux où il vit avec la loi, aujourd'hui il y a les tribunaux pour enfants, on pense que cela peut être efficace. Est-ce que c'est efficace pour contraindre les parents ou efficace pour protéger les enfants qui sont déjà dans la rue?
Bon, j'ai trouvé cette présentation, cette intervention très intéressante parce que en fait, ça allait bien dans le sens du problème et de la nécessité d'avoir des solutions holistiques sur cette question. et non pas de blâmer les enfants, les parents, l'État, etc., mais plutôt cette question de créer un environnement de protection pour les enfants. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que cette personne a dit. Et en ce qui concerne le renforcement, disons, de l'environnement de protection, c'est exactement ça que nous sommes en train de faire. Mais bien entendu, en essayant d'atteindre toutes les personnes concernées, c'est-à-dire toutes les entités concernées. Et c'est pour ça que nous faisons des efforts, bon, pour aider les enfants, bien sûr, qui sont déjà dans la rue, mais aussi pour sensibiliser tous les acteurs, que ce soit l'État, les parents eux-mêmes, les communautés, les groupes religieux, en fait, tout le monde, on essaie d'atteindre, disons, toutes les couches de la société congolaise, pour les sensibiliser sur cette question.
Il y a une question qui a été posée par Kouka, par Mbandaka, pour lui, vous demander qui de l'homme ou de la femme est responsable de ce qui arrive maintenant. Vous avez dit qu'on ne peut pas charger une seule personne dans ce phénomène.
Ouais. Oui, parce que c'est sûr qu'on ne peut surtout pas charger la femme plutôt que l'homme. On peut charger les parents que comme un maillon de la chaîne.
Et avant d'écouter d'autres auditeurs, il y a ces problèmes qui se compliquent au Mala et relever les régières, c'est les adultes de la rue, s'il faut parler ici, quand déjà les ceux qui sont dans la rue, entre eux, il y a des naissances, et là, la situation devient un peu plus compliquée. Alors, comment concrètement on peut s'attaquer aux problèmes quand déjà une fille qui était dans la rue avec un garçon se retrouve avec un bébé, on connaît plus les problèmes qui se posent, les infections sexuellement transmissibles, les VIH, et alors la tâche devient encore plus compliquée, plus complexe même pour intervenir.
Ouais. Bon, si je prends l'exemple de Kinshasa, à Kinshasa, nous avons mis en place des centres d'hébergement. Mais attention, ce ne sont pas ni des orphelinats, ni des institutions fermées. C'est simplement des endroits où les enfants des rues peuvent venir et avoir accès à certains services comme l'éducation, la santé dont vous parlez. Et pour l'instant, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais c'est clair que ce ne sont pas des solutions à long terme. C'est simplement pour essayer de faciliter un peu la vie de ces enfants qui sont dans la rue. Et je voudrais répéter encore, bon, par rapport à ce que la dame de Boudjimaï a dit, que les enfants ont des droits, et dans cette histoire d'enfants des rues, souvent les enfants sont des victimes.
Et là, quand on recourt à la violence, comme le fait de les avoir brûlés, on a vu ça en Boudjimaï, les gens se réjouissaient parce qu'ils se rendaient compte que quand on fait une action comme ça, les enfants diminuent un peu dans la rue. Mais alors, quels sont les mécanismes aussi de protection de ces enfants, concrètement, qu'il faudrait, pour que les gens ne comprennent pas qu'il faut recourir à la violence pour résoudre le problème?
Oui. Ben là, je pense que maintenant qu'il y a un cadre législatif, dans ce cadre législatif, il y a des mesures légales qui sont prévues justement pour empêcher ce genre de dérive, si je peux l'appeler ainsi.
Voilà. Nous avons Viviane qui est au pays, c'est en Colombie, dans les Katanga. Franck nous appelle de l'Allemagne. Vous allez avoir la parole tout juste après pour commenter avec nous ces sujets et surtout vos propositions pour résoudre ces problèmes d'enfants de la rue.
Émission spéciale Parole aux auditeurs consacrée à la province du Nord Kivu.
Quel bilan faites-vous à ces jours du fonctionnement de vos institutions provinciales?
Les auditeurs habitant la province du Nord Kivu, prenez rendez-vous avec toute l'équipe PA mercredi 22 juin de 10h à 11h15. Inscrivez-vous à l'adresse pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Voilà, nous allons dire à nos auditeurs du Nord Kivu, prenez déjà ces rendez-vous, comme c'est du Kasaï occidental hier, et c'est de Bakongo la semaine passée. Nous allons à Kolwezi. Jijan, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, M. Pierrot, bonjour à tous.
Vous avez suivi...
Je voudrais surtout dire ceci. Les parents déclinent de leur responsabilité. On ne peut pas souvent accuser l'État congolais pour dire non, les parents ne sont pas bien rémunérés, tout ça. Mais aux parents eux-mêmes, par contre, de limiter, selon moi, les naissances. Ça m'engage vraiment. Et, parce qu'ici, à Colosie, j'ai vu qu'il y a des particuliers qui ont essayé d'encadrer par ici, par là, les enfants de la rue. Mais je vois que les efforts sont vraiment minimes, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'enfants de la rue ici, à Colosie. Et maintenant, comme proposition, je voudrais dire que je voudrais plutôt inviter l'État congolais à prendre des dispositions pour récupérer ces enfants et leur rendre ici la société. Par exemple, en les mettant en indemnisation dans l'agriculture, et là, ils auront peut-être... il y a peut-être l'État congolais limité, c'est catastrophique, les enfants de la rue ne vont pas inquiéter la population.
Merci.
Et surtout, les filles n'auront pas de temps pour tomber enceinte comme on les voit ici. Alors, c'est rien que ça.
Merci Viviane de cette proposition d'écologie au Katanga. Nous allons en dehors du pays, en Allemagne. Franck, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Pierrot, bonjour à tous les invités, et aussi à l'invité.
Voilà, et de l'expérience, là où vous êtes, vous avez pressionné d'autres pays, partant de toutes ces expériences, de ce que vous avez écouté sur les antennes, qu'est-ce que vous pensez qui puisse être mené comme action urgente, selon les termes de cette journée, pour lutter contre ce phénomène et puis venir en aide à ces enfants?
Bon, merci beaucoup pour la parole accordée. Je crois que l'essentiel a déjà été dit, mais je peux encore ajouter un supplément d'information que le phénomène enfant de rue se vit à des différents niveaux. Ici en Occident, par exemple, de plus en plus, on se rend compte que l'excès de l'aisance matérielle conduit aussi parfois à certaines crises au niveau des familles, si bien que les parents, quand ils n'ont plus assez de temps pour s'occuper des enfants, et aussi avec la conception assez exagérée de la liberté qui pousse aussi au libertinage, il y a des enfants qui se retrouvent à rupture avec la famille et se retrouvent facilement dans la rue. Mais peut-être que ces enfants qui se retrouvent dans la rue, ils ont à manger, ils ont de quoi à se vêtir. Donc c'est une situation qui est peut-être mal gérée au niveau de leur famille.
Mm-hmm.
Mais chez nous, je trouve que la situation est saisie de manière plus radicale. En suivant notre invité, je crois qu'elle a dit l'essentiel, la responsabilité est partagée. Moi, je trouve que c'est pas seulement aux parents, c'est pas seulement à l'État, mais c'est d'abord une crise d'homme. Je crois qu'un papa ou bien une maman qui a été bien éduquée au niveau de sa famille ou qui connaît la signification de la vie ne peut pas laisser son enfant se retrouver dans la rue, même s'il n'a pas à manger à lui donner pour un soir, quoi. Je crois que c'est un problème d'homme. La politique, ou les hommes politiques doivent s'interpeller. Mais je trouve que d'abord, au niveau de la famille, il faut qu'on revalorise encore la conception que nous avons de l'éducation. Éduquer un enfant, c'est tout un projet de vie, quoi. Donc, ça ne doit pas seulement s'arrêter à donner à manger à l'enfant, mais c'est faire de l'enfant un homme responsable qui aura aussi des responsabilités pour l'avenir. Alors, si on n'a pas d'abord des valeurs pour donner à cet enfant qu'on est en train d'éduquer, je crois que les conséquences peuvent être telles que ce que nous sommes en train de déplorer.
Mmh.
Et aussi au niveau des écoles, il y a parfois des enfants qui sont envoyés à l'école, mais qui n'apprennent rien au niveau de l'école. Alors, il suffit qu'ils se retrouvent en situation conflictuelle avec la famille, donc l'enfant trouve que c'est mieux de se retrouver dans la rue. Moi, je trouve que le problème est plus complexe, il est plus radical. Parler de la crise, ça peut se justifier, mais il faut d'abord retravailler l'instabilité socio-économique, tout ce qui nous marginalise, et les politiques pouvaient être en mesure de donner des réponses aussi satisfaisantes. Mais d'abord, il faut que chacun puisse s'interpeller. On met au monde pourquoi? qu'on a besoin des enfants pourquoi. Je crois que c'est par là, c'est plus un problème existentiel. Moi, je crois qu'on ne doit pas le limiter seulement au niveau matériel. C'est plus un problème existentiel. Il faut que chacun se demande qui suis-je d'abord pour donner valeur à quelqu'un. Donc, comment moi je suis pour donner aussi de même valeur à l'autre quoi. Il faut d'abord qu'on se connaisse, qu'on se comprenne. Et je crois que c'est cet ensemble-là, cette intégralité, la crise au niveau de l'existentiel, la crise au niveau du matériel, du culturel, du social et du politique qui peut peut-être être repassé de manière assez complexe. Et pas seulement dire ce sont les parents, mais c'est nous les hommes, nous devons nous interpeller.
C'est peut-être tout ce que je peux dire. Merci Franck, vous nous appelez d'Allemagne. Nous rentrons au pays avec Maître Mopi, là, qui est en Bandaka, dans la province de l'Équateur. Bonjour Maître.
Oui, bonjour Monsieur Thiroux.
Vous avez suivi les uns et les autres. La situation est préoccupante, mais il faut quand même qu'on puisse parvenir à faire quelque chose. C'est pour cela que vous êtes sur les antennes. On vous écoute. Ah, désolé qu'on a perdu Maître Mofila, la liaison téléphonique avec Mbandaka a posé des problèmes. Nous rentrons à Kolwezi dans le Katanga, Tati. Vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute, Tati.
Alors, je voudrais intervenir dans l'émission qui passe concernant les enfants de la rue. C'est un sujet très, très intéressant parce que c'est un problème qui se fait dernièrement dans presque toute l'étendue du Congo. On peut dire dans la plupart des cas, nous constatons la fuite des enfants dans les rues et ce problème est dû premièrement par la démission des parents dans leur tâche d'assumer la survie de la vie familiale, d'une part, et de l'autre, l'état démissionnaire aussi en se charge vis-à-vis de la population. Parce que l'État ne prend pas bien, n'assume pas bien ses devoirs face à la population qu'elle est censée protéger. Il y a des parents qui sont dans le chômage et ces parents n'arrivent pas à prendre soin des enfants. C'est l'une des causes qui pousse aussi les enfants à aller dans les rues. Non pas seulement ça, il y a aussi des enfants qui sont peut-être rebelles. Il y a des enfants qui se trouvent dans les rues, pas seulement par manque de moyens de survie chez les parents, mais par l'esprit de, je ne sais pas, de l'adolescence. Donc, les parents ont une charge. On peut dire leur présence sur le terrain, ou bien leur présence sur les rues, n'est pas seulement en charge des parents. Il y a l'État, d'une part, et de l'autre part aussi les parents. Beaucoup d'activités. Les parents, l'État, par exemple, peut subventionner certaines activités agricoles, dans la création d'autres emplois, pour aider les parents à subvenir aux besoins de leurs enfants. Par exemple, ils peuvent aussi subventionner, financer l'étude au niveau de l'école primaire. Il y a dans d'autres pays, l'enseignement primaire est gratuit. Nous demanderons aussi à notre État, l'État congolais, de subventionner certains secteurs.
Merci.
Comme l'éducation et autres.
Merci beaucoup, Tati Dekolwezi. Vous avez évoqué la subvention des activités agricoles, l'emploi et aussi la gratuité de l'enseignement qui peut faciliter à ces enfants d'être occupés plutôt que de les voir dans la rue. Nous allons à Karangio, Kasse Occidental. Édouard, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot.
Je sais qu'à Kananga, l'État avait initié ce centre d'Indécha où les enfants de la rue étaient récupérés, encadrés, qui fréquentaient même l'école. Avec cette expérience, pensez-vous que les choses ont beaucoup évolué sur place? Où en est-on, Édouard, si vous maîtrisez bien la ville?
Oui, je maîtrise très bien la ville, monsieur Pierrot. Je crois que c'est pas tellement évident, mais il faut encore renforcer vraiment quelque chose. Parce que ce phénomène enfants de la rue, c'est pas vraiment l'affaire de l'État seul ou bien des parents seuls, mais c'est une affaire collective. Donc, il y a d'abord deux facteurs que moi j'ai essayé de soulever. Le premier facteur, c'est que il y a le mariage qui n'est pas contrôlé ici. Donc, un certain vagabond qui se sent capable de se marier aussi longtemps qu'il n'a ni moyen, donc on traque les mariages. Tout un État irresponsable, il ne sait pas éduquer les enfants. Et un jour, l'enfant parvient donc à réclamer son droit. Comme lui est irresponsable, alors il ne fait pas diriger l'enfant. L'enfant prend la direction d'être un peu à l'aise. C'est le premier facteur que j'ai nommé, le facteur incapacité des parents. Secundo, quand l'enfant commence à poser des actes graves dans la famille, tels que l'impolitesse envers les parents d'abord et les autres membres de la famille, les compréhensions, le vol, plus loin, il devient la boîte de Pandore du malheur qui frappe la famille en ces moments-là. On suppose qu'il était en train de former une entreprise sorcière. Tu vas le pousser donc et pousser toujours l'entourage à le répéter sorcier. Mais avant qu'il puisse se trouver dans la rue, il passera peut-être pour certains parents par la vue. Alors, moi je trouve que pour mettre fin à ce phénomène enfant de la rue, ça demande vraiment d'abord la participation de l'État dans l'identification de la population, la sensibilisation pour l'enregistrement du mariage et l'état civil, et que les parents veillent à leurs enfants en leur transmettant une bonne éducation, une orientation possible, qu'ils puissent pouvoir à leurs besoins, malgré les maigres moyens et aussi la situation actuelle économique du pays, que les parents évitent de s'atteler à des fausses croyances telles que la sorcellerie, tout ça, ça n'a pas vraiment d'impact.
Merci, Edouard.
Et enfin, pour terminer, M. Perrault, vous permettez que l'État et certaines HBL, organismes comme UNICEF, encadrent les enfants qui se trouvent déjà dans la rue pour détourner les restes de ce chemin-là et éviter la récidive. Donc, dans cette optique, je trouve qu'on peut éradiquer ce phénomène enfant de la rue.
Merci beaucoup, Edouard. Vous êtes les derniers auditeurs de cette émission. Merci hein, pour l'esprit de synthèse et surtout toutes ces propositions qui sont très, très intéressantes. C'est avec vous que nous terminons au nom de tous les auditeurs. Nous allons revenir à notre invité pour commenter un tout petit peu ses propos et aussi la conclusion de l'émission.
Parole aux auditeurs.
Madame Pierrette Vouti, on a suivi les auditeurs, l'ensemble des problèmes qui sont revenus, presque les responsabilités, comme on l'a dit, partagées. Comme on termine déjà l'émission, s'il faudrait retenir au niveau de l'UNICEF, au niveau des initiatives de tout ce que l'UNICEF fait, les grandes lignes d'action que les auditeurs peuvent retenir, qui peut-être peuvent être appliquées par l'un ou l'autre dans son milieu, en vue de mettre fin de lutter contre ce phénomène et surtout de venir en aide à ces enfants qui sont nos propres enfants.
Merci. Oui, bon, les interventions étaient très, très pertinentes, j'ai trouvé. Et je ne vais pas répondre aux questions spécifiques, mais faire quelques commentaires. Et ce que je voudrais te faire pour finir cette émission, c'est faire un plaidoyer. Et le plaidoyer, c'est donc à tous les acteurs de cette situation tragique, c'est-à-dire et tous ceux qui ont des responsabilités, c'est-à-dire les parents, les familles, les communautés, le gouvernement, bien sûr. Les organisations qui travaillent et qui essaient d'aider ces enfants et que tout le monde, et je compte aussi sur les médias comme vous pour sensibiliser toutes ces couches et ce que je voudrais répéter c'est donc en conclusion c'est que tous les enfants ont les mêmes droits à la vie, au développement et à l'expression de leur opinion. Et que les enfants en rupture familiale sont privés de ces droits les plus élémentaires et que donc nous avons une responsabilité individuelle et partagée de protéger les enfants vulnérables. Et que les parents ont la responsabilité de connaître les droits des enfants et de les promouvoir. Et enfin, que le gouvernement doit mettre en place des mécanismes sociaux effectifs permettant aux familles de subvenir aux besoins essentiels de leurs enfants. Des mesures appropriées doivent être prises, bien sûr, et ce que je voudrais enfin, c'est réitérer l'engagement de l'UNICEF de travailler avec le gouvernement, les communautés et les enfants, bien sûr, pour régler ce problème tragique.
Nous vous disons merci, Madame Pierrette Vouti, d'avoir accepté notre invitation et commenté ce sujet avec les auditeurs de Radio Capi.
Merci.
Et merci à vous tous qui avez suivi cette émission et vous tous aussi hein, qui êtes intervenus. Peut-être vous aviez la volonté et l'envie d'intervenir. Malheureusement, la ligne téléphonique ou le temps et l'espace ne nous ont pas permis. Nous vous disons tous merci de votre fidélité à Radio Capi. Et c'est par là que nous mettons un point final à l'émission de ce jour.
Allô? 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 Mais, il ne répond pas?
on va se retrouver avec vous demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine et nous allons revenir sur les sujets qui a été reporté, celui de mardi dernier sur la table ronde des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire ainsi que la deuxième édition de l'exposition universitaire. Un rendez-vous d'échange et de découverte pour l'amélioration de l'enseignement supérieur du domaine de la recherche en RDC. Une seule question pour l'émission, qu'attendez-vous de cette rencontre? Réagissez et soyez nombreux à l'adresse pa@radiocapi.net. Merci à Marie-Chantal Lumba, Cécile Poutou, Sylvain Matoumbou pour la réalisation de cette émission supervisée par Nicole Ndiaka. Vous pouvez la retrouver sur www.radiocapi.net mais aussi en FM à 20h, heure de Kinshasa, 21h à l'Est et au centre du pays. Ça m'a fait la magie. Je vous dis merci et surtout bien de bonnes choses en compagnie de Radio Capi.